Radio Europe 1.
19h, 20h30.
Michel Drucker, Wendy Bouchard.
Bonsoir à tous, bonsoir chère Wendy.
Bonsoir cher Michel, bonsoir à tous.
J'espère que votre journée s'est bien passée.
Et tout va bien.
Nous allons passer un grand moment tout à l'heure avec celui qui est le plus légitime pour nous parler de la planète. Il la survole depuis si longtemps et il la survole également Paris. Il va nous raconter tout ça car il a une actualité littéraire très importante.
Oui, et ses derniers clichés sont publiés aux éditions du Chêne. On vous présentera La Terre, Vue du Ciel, réédition, et puis Paris, Vue du Ciel, vous en parliez. Un peu avant 20h, Yann Arthus Bertrand, vous croiserez le romancier Bernard Werber, auteur de la trilogie célèbre des fourmis. Il nous présente ce soir son Miroir de Cassandre aux éditions Albin Michel, l'histoire d'une ado de 17 ans, assez discrète mais habitée, vous l'entendrez, par des dons de divination. Dans un quart d'heure, les répondeurs VIP de Jérôme Daran, les messageries People qui donnent le ton de l'actualité. Vers 19h30, Nicolas Canteloup. 8h moins le quart, le coup de cœur des stars, séquence rituelle, et c'est Jacques Pradel ce soir qui revient enchanté de l'exposition Louis XIV au château de Versailles. Après le journal, à 20h10, nous serons en duplex avec Pierre de Villeneuve en sortie de scène du One Man Show de Christophe à l'Évêque au théâtre du Rond-Point. Et puis Raphaël Mesrahi nous rejoint à la fin de cette émission avec sa Morissette. On se télétransporte avec elle en 2050. Cette émission est en public et en direct. Vous appelez 39 21 pour y participer.
Studio Europe 1.
Wendy Bouchard, Michel Drucker.
Bonsoir Yann Arthus Bertrand.
Vous êtes... Salut mon petit Michel.
Yann, oui, on se connaît depuis si longtemps, on a l'hélico en commun, entre autres. Vous n'êtes pas souvent à Paris finalement, parce que quand je vois combien vos œuvres, que ce soit cinématographique, télévisuel ou littéraire, ont un succès international, si vous allez les présenter dans le monde entier, vous n'êtes pas souvent là, non ?
Bon, en ce moment, c'est vrai qu'on fait beaucoup, on projette beaucoup le film Home un peu dans le monde entier avec des associations. Je pense bientôt le présenter aux Nations Unies, on va le présenter pour préparer Copenhague, voilà. On fait un peu de lobbying.
La grande conférence qui aura lieu en décembre. Alors d'ici là, vous êtes chez nous à Paris pour nous présenter. On va parler d'abord de Paris Vue du Ciel, parce que La Terre Vue du Ciel, on la connaît presque sous toutes ses coutures grâce à vous. Paris Vue du Ciel avec cette couverture des ponts de Paris en clair-obscur qui donne le ton, quoique c'est la seule photo en noir et blanc.
Enfin, elle n'est pas en noir et blanc, c'est que
en coucher,
soir,
coucher de soleil. Sinon, on découvre Paris comme on ne l'a jamais vu, ou peut-être certains qui sont en hélicoptère. C'est magnifique, vous nous donnez à voir de la hauteur, des perspectives, des dimensions.
Mais j'ai eu la chance de... Survoler Paris, c'est extrêmement compliqué. Mmh. Survoler Paris, c'est comme survoler la Chine, c'est-à-dire il faut faire une demande auprès de la préfecture qui est refusée, là après on passe à un ministère, puis après souvent on attaque directement le président de la République, et j'ai fait 3 livres sur Paris chaque fois avec une autorisation gentille, on envoie un petit mot gentil à Mitterrand, à Chirac ou à Sarko, parce que Paris est une ville extrêmement compliquée à survoler.
Alors à part le SAMU, l'évacuation sanitaire qui peut se poser sur les hôpitaux, à part les hélicoptères du Tour de France qui le jour de l'arrivée,
voilà, exactement,
et à part
le 14
juillet, dont je me sers quelques fois d'ailleurs,
bien sûr, c'est très compliqué,
voilà. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir faire plus de vols que d'habitude et de me concentrer, et je crois que c'est le dernier que je vais faire sur Paris. J'ai beaucoup survolé Paris parce que j'ai vraiment travaillé au téléobjectif, j'ai essayé de faire des choses différentes, travailler la lumière et de vraiment de faire Paris, c'est ma maison, quoi, c'est mon home à moi, hein. Donc j'ai vraiment essayé de transcender, d'esthétiser une ville que j'adore.
Alors on a essayer de transformer votre appareil de radio en téléviseur, puisqu'on a un livre magnifique sous les yeux. Mm-hmm. Alors, 200 photos qui permettent de découvrir la capitale, les toits, les rues, les monuments emblématiques, le vieux Paris, Montmartre, mais aussi le Paris moderne, comme celui de la Défense.
Oui. On a beaucoup travaillé au téléobjectif, c'est-à-dire qu'on travaille des 5 ou 600 mm, parce qu'on ne peut pas descendre en dessous de 500 mètres de Paris. Donc on vole assez haut, donc j'avais toujours des vues très larges. Là, j'ai vraiment essayé de prendre des détails, des cours intérieurs, des détails de jardins, c'est ce que
des
j'aimais faire.
Des piscines sur les toits de Paris.
Voilà, exactement. Mmh. Je dis pas toujours, mais c'est vraiment un bouquin que j'aime beaucoup, celui-là.
Il y a par exemple une vue aérienne, évidemment, du cimetière de Montparnasse, qu'on n'imagine pas du tout comme ça. On a l'impression d'une petite bourgade.
Oui, avec un petit moulin. Oui,
c'est magnifique.
Un ancien moulin à l'intérieur.
Ouais. Ça, vous-même, vous avez eu des surprises, j'imagine.
Bah, c'est ça, justement, la photographie aérienne, c'est tous les endroits qu'on connaît très bien, de les voir vus du ciel, ils sont complètement différents, on les reconnaît plus. Ça donne tout à fait une nouvelle perspective. C'est ce que j'aimais, se faire Paris. Et bien, en même temps, ce qui est intéressant, c'est de faire une ville qu'on connaît bien, d'essayer de sortir de la carte postale, de faire une photo différente. Donc, mais qu'est-ce que c'est? Il y a une fontaine, là, à la Villette. Personne comprend où est cette fontaine. Il y a vraiment des endroits dans Paris qu'on ne vous je défie quelqu'un de savoir où c'est si vraiment il n'y va pas tous les jours.
C'est vrai qu'en général, la Tour Eiffel, on la voit dans l'autre sens.
Et alors, on voit comment s'est fait Paris, hein, la ville qui a d'abord été prise par les légions romaines, rebaptisée Lutèce. Mmh. Hein, on peut refaire toute l'histoire de Paris vue d'en haut. Hein.
Bah, Paris a comme
Haussmann, hommage à tous ceux qui ont fait Paris.
Avec un texte formidable de Philippe Tretiak, qui est un architecte qui a fait un livre « Faut-il peindre les architectes ?» Donc on voit bien que c'est quelqu'un de critique et d'intelligent.
Les grands porteurs à elle.
Voilà, ouais, exactement. Mmh. Et qui a fait un texte qui n'est pas un texte touristique, qui est un texte vraiment à lire. Merci à lui.
Alors, quand on photographie Paris, on va se faire un petit plaisir. On va rendre hommage à celui qui est à vos côtés, le pilote.
Oui, bien sûr. Oui.
Qui étaient les pilotes?
J'ai beaucoup travaillé avec notre ami Franck.
Franck Arestier.
Voilà, qui connaît bien Paris et qui a beaucoup survolé pour le 14 juillet. Donc, je me sers de temps en temps, quand il y a le 14 juillet ou le défilé ou le Tour de France, j'essaie de monter dans l'hélicoptère pour pouvoir faire des photos parce que souvent, ça me permet d'avoir des autorisations en plus.
Franck Arestier, qui est également le pilote d'un des hélicos du Tour de France. Si on voit le Tour de France, si on voit la France aussi bien pendant que les coureurs en bave dans l'école, c'est grâce à ses pilotes aussi.
C'est un homme important. Et puis, vous le dites dans le texte avec Philippe Tretiak, à Paris, évidemment, nos tympans dégustent à Paris. Il y a des bruits qui sont plus des bruits d'ailleurs que des sonorités. Mais c'est aussi pour les étrangers de l'accordéon, les balles populaires.
Et, ça, je ne l'entends pas, moi.
Non, vous ne l'entendez pas. Mais si on écoute, par exemple, ceci avec Joséphine Baker, eh bien, on ferme les yeux et on imagine un Paris à soi.
Voilà. Vincent Scotto, Géo Cogé. Chanson symbole de l'attachement des touristes étrangers pour Paris. Cette chanson est évoquée dans le livre d'ailleurs, hein. Mmh. Est évoquée comme musique emblématique de Paris.
Les touristes aussi sont évoqués dans ce livre. On les voit à la terrasse, sur la terrasse du musée du Quai Branly, sur la terrasse du musée Beaubourg.
J'ai essayé de faire un livre intime à travers des photographies aériennes qui est pas très facile. Il faut savoir qu'aussi sur voler Paris, il y a énormément de contraintes. On n'a pas le droit de voler le week-end, c'est interdit. On n'a pas le droit de voler le mercredi matin, conseil des ministres.
Il y a des nuisances, gens qui téléphonent.
C'était comme un hélicoptère bimoteur, donc on fait beaucoup de bruit. Dès qu'il y a un chef d'État qui est là, c'est interdit. Dès qu'il y a un ministre... surtout moi, comme je photographie de très haut, j'ai une très bonne météo. Alors souvent, j'ai des jours fixes pour voler. On me dit, vous allez voler mercredi. J'arrive le mercredi, il fait mauvais. Donc on attend, c'est qu'il y a un petit trou entre deux nuages, on décolle, en fin de compte, on se repose, on a téléphone à la préfecture, mais on peut plus voler. C'est pas simple, voilà. C'est un livre qu'on a fait quand même en 3 ans.
Ah oui, 3 ans, quand même.
Vous qui avez montré les plus beaux paysages du monde dans la Terre vue du ciel, vous avez été surpris par la beauté architecturale de Paris, par ses grandes artères, par ce style haussmannien?
Moi, je photographie un peu Paris comme si je photographiais ma famille. C'est les gens qu'on aime, on les photographie d'une façon différente. Il y a trois villes, les trois plus belles villes du monde pour moi photographiées, c'est New York, qui est incroyable, qui est vraiment une belle ville. Alors là, la seule autorisation qu'on vous demande, c'est l'autorisation de l'American Express, hein, pour photographier New York.
C'est très facile.
C'est plus facile. C'est plus facile. Oh, quelquefois, il y a des jours où, le banquier est pas content. Mais, et Venise, qui est une ville extraordinaire parce qu'elle est très dessinée sur l'eau, c'est une magie complète. Et Paris.
Les autorisations de photographier Venise sur
Volébé. Plus simple que Paris.
C'est pour ça, d'ailleurs, que tout est plus simple à Venise. C'est pour ça que M. François Pinault est allé à Venise.
C'est ce qu'on dit, voilà.
Juste après la pause, on retrouve Yann Arthus, Bertrand, Michel Drucker et notre ami Jérôme Daran pour ses répondeurs VIP. Oui. On entendra notamment celle de Dominique de Villepin. Chauffez votre voix. A tout de suite.
Studio Europe 1.
Studio Europe 1.
19h, 20h30.
Michel Drucker, Wendy Bouchard.
Yann Arthus-Bertrand est notre invité. Paris vue du ciel, on en a parlé, édition du Chêne. Il y a La Terre vue du ciel, ah, ça c'est un portrait aérien de la planète aux éditions La Martinière. Ça, j'ai ce livre évidemment, qui est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à Noël. Alors là, c'est vraiment reconnaissance internationale, l'UNESCO, l'organisme parraine ce projet. Et puis il y a eu cette exposition gigantesque.
Mais on a inventé
ça, sur les grilles du palais du de votre vie. Luxembourg.
C'est un peu le livre de ma vie parce qu'en fin de compte, c'est un travail qui a changé ma vie. Je me souviens encore en 92, lisant dans Le Monde la conférence de Rio, tous les chefs d'État venaient parler sur l'environnement. Je me suis dit, c'est peut-être le moment, avant l'an 2000, de faire un livre sur l'état du monde. Et je me rendais pas compte de ce que j'allais découvrir. D'abord, la Terre était beaucoup plus belle que j'imaginais. On dit souvent beau, c'est un beau un peu ringard, un beau qu'un les artistes disent pas, mais il y a rien de mieux que le mot, la beauté, pour parler de la nature. Transformée, parce que j'ai bien vu l'impact de l'homme sur la Terre. Quand je suis né, on était 2 milliards. Aujourd'hui, on est 7 milliards. Je suis seulement la seule génération où on verra le monde triplé, quoi. C'est incroyable. Transformée, parce que tous les scientifiques que je rencontre sur le terrain, avec qui je parle, parce que je suis quelqu'un de curieux, j'aime bien faire des photos, mais j'aime bien qu'il y ait une légende forte, de comprendre. Tous les scientifiques que je rencontre sont des gens inquiets. Donc je deviens moi aussi un petit peu inquiet. Transformée, surtout, alors vraiment important, par le travail des ONG. Les gens qui, sur le terrain, font des choses. Les gens qui sont vraiment les vrais héros de l'écologie, c'est ces gens-là. Il y a 1200 associations, par exemple, en France, sur la nature, et c'est des gens qui, bénévolement, font des choses, manifestent, écrivent, ils font beaucoup plus que nous, je pense. Donc c'est vraiment un hommage, et ça me transforme. Je pense que l'engagement rend heureux, et moi je veux rejoindre cette famille de gens qui s'engagent. Et puis transformer surtout, parce que je vois que dans le monde, il y a près d'1,5 milliard de gens qui travaillent la terre à la main pour nourrir leur famille. Et ces gens-là qui vont être les premiers qui vont souffrir du réchauffement climatique, du changement climatique. Et donc ça me culpabilise un petit peu, et je deviens un activiste. Donc ce bouquin, c'est vraiment le bouquin de ma vie.
Et la musique que vous entendez, c'est la bande originale de Home, qui est sortie en même temps dans 126 pays sur des écrans géants. Ça aussi, c'est une aventure incroyable.
Ça, c'est à la musique d'Armand Amar. Mon ami qui a fait cette musique. Et de ce livre, c'est dans le livre, j'ai mis beaucoup de photos de Home, les mots des émissions de télévision. Il y a 70 nouvelles photos. Et Home a été une aventure inouïe de 2 ans de travail avec une équipe. On disait qu'on était en mission, qu'on était là pour changer le monde et que tout ce qu'on faisait était important. Et c'était un moment incroyable. Et d'ailleurs, on est en train de préparer en ce moment un documentaire pour France 2 qui va passer juste avant ton émission. Je te l'annonce. On fait 2 fois 1 heure de tout ce qu'on n'a pas pu dire dans le film, parce que j'ai tourné 500 heures pour faire un film de 2 heures. Donc il y avait tellement d'images.
Ça va passer dimanche dans l'après-midi.
Et ça va passer exactement avant ton émission, 2 fois 1 heure. Et ça va être très personnel et tout ce qu'on n'a pas pu dire dans le film. J'imagine. Tout ce que j'ai, qu'il y avait trop d'images.
Et au-delà de cette réédition 10 ans après, Yann Arthus-Bertrand, rapidement, il y a eu 139 expositions, enfin 139 pays exposants de ces clichés magnifiques. C'est dire que le langage de la Terre, évidemment, est universel.
C'est-à-dire qu'on a fait l'exposition à rue de Médicis, faut dire la vérité, personne voulait nous exposer, les musées voulaient pas.
Moi, je me souviens d'être passé au
Luxembourg. Donc c'était sur les grilles du palais.
C'était le début, ça.
C'était tout à fait le début. Et un jour, je passe devant le Luxembourg avec un des responsables du Sénat. Je dis, pourquoi on mettrait pas les grilles, les photos dehors dans la rue? Il dit, mais t'es fou, ça va être volé. Ça avait jamais été fait avant, faut savoir.
Vrai, oui.
Et puis on a commencé à le faire. Et ça a été un succès inouï. Et ce qui est formidable, c'est qu'on a fait des expositions dans le monde entier. Et
130 villes.
On dit près de 200 millions de personnes qui l'ont vu. Et d'ailleurs, je m'aperçois, quand je montre Home, je vais faire le tour du monde, montrer le film, les gens me parlent des expositions qu'ils ont vues à Copenhague, au Liban. Et ce qui est formidable dans les photos de la Terre, dont je ne suis pas responsable, il faut dire que la Terre est tellement belle que j'ai l'impression que c'est un cadeau qu'on m'a donné, j'essaye de rendre, c'est que ce sentiment de beauté de la Terre, tout le monde le comprend. Tu exposes à Kaboul, tu exposes à New York, les gens comprennent la même chose. Un arc-en-ciel, c'est beau. C'est quelque chose qu'on a tous en commun, la beauté.
Ce qui est fascinant, c'est que ce livre, que j'ai du mal à soulever, qui est énorme, tu vois, il pèse, c'est un livre colossal, il a été vendu, écoutez bien, à 3 600 000 exemplaires. Je ne parle pas des produits dérivés. C'est rarissime, mais ce n'est pas un livre qu'on achète tous les jours. Hein. 3 600 000 exemplaires, je crois que c'est un record, c'est dans le livre des records. Ça.
Oui, mais on avait fait avec, ce qui est bien, c'est avec, quand j'ai fait ce bouquin avec Hervé de la Martinière, Hervé m'a dit, écoute, c'est le livre de ta vie, on va faire ce que tu veux. Je lui ai dit, écoute, j'aimerais que ce livre ne soit pas cher. C'est important, c'est un livre...
45 euros.
Voilà. Et non, mais 45 euros, c'était largement en dessous du prix de ces livres-là quand le livre est sorti.
C'est fou,
ça. Et je pense que le prix était un appel formidable. Et les gens qui ont les premiers ont aimé le livre, ce sont les libraires. C'est les libraires qui ont fait le succès de ce livre. Et c'est incroyable.
Nous sommes sur Europe 1 avec Yann Arthus-Bertrand. Nous sommes en direct, en public, comme chaque soir, jusqu'à 20h30.
Studio Europe 1.
Le répondeur VIP.
De et avec Jérôme Daran.
Ah, mais d'ailleurs, il y a un jingle avec une voix et tout.
C'est... Oui, voilà, c'est ma voix.
C'est moderne, hein.
Bien sûr. Yann Arthus-Bertrand, le président Jérôme Daran.
Oui, voilà. Enchanté, voilà. Ravi.
Qui a une voix qu'on n'oublie pas.
Oui, c'est vrai, Michel. Hein.
Même vu du ciel, quand on survole Jérôme Daran, on est frappé par sa voix qui monte. Et il écoute les répondeurs, surtout. Ouais.
Et tout ça n'est pas écrit, hein, c'est de l'impro, hein, de ouais. Michel. Hein,
et debout, hein.
Ouais.
Debout, sur une jambe, puis regarde, sur une jambe.
Applaudissements pour Michel.
Allons-y, Jérôme. Ouais.
Bonsoir Jérôme.
Non, c'est pour prouver aux auditeurs qu'il y a du public. Hein, parce que... Impression que non. Yann Arthus-Bertrand, bonsoir. Alors, vous êtes un fervent défenseur du FC Environnement. Vous jouez en vert, évidemment, bien sûr. Hein. Et vous êtes en guerre contre toutes les formes d'excès, de gaspillage. Yann Arthus-Bertrand. Hein, donc, question gaspillage au niveau des prénoms, ça y va quand même. Hein. 3 prénoms pour un seul homme, bravo. Vous défendez également les espèces en voie de disparition. Hein. Je ne parle pas de la moustache, évidemment. Hein. Alors comme vous, Yann, je découvre la chronique. Hein. C'est mon co-auteur Grégoire Day qui l'a écrite. Hein. Ou c'est moi et je l'assume plus trop, je sais pas, mis un truc comme ça. Allez, détendez-vous, Yann Arthus, hein, le plus drôle est passé. Vous êtes donc l'auteur du best-seller La Terre vue du ciel, vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Bravo. La police... française, de son côté, vient de sortir un bouquin dans le même style. Hein, ça s'intitule Jean-Pierre Trébert vu du ciel, hein, avec plein de photos de fugitifs. Jean-Pierre planqué derrière un arbre, Jean-Pierre chez sa mère, Jean-Pierre en soirée chez Michel Drucker, Jean-Pierre là, 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 Jean-Pierre entre deux policiers. Ah non, ça c'est De Villepin, pardon, excusez-moi. Voilà. Alors Trébert, ça fait 6 semaines qu'il est dehors. Hein, il pensait tenir 2 semaines. Hein, donc tout ça, c'est du bonus pour Trébert. Hein, Trébert, du bonus pour Trébert. Trader.
Pour tous les deux, oh,
oui,
si.
Oui. Si, si, si,
c'est pas mal,
c'est
hein?
Bah, pour quelqu'un qui découvre sa rubrique,
sacré Grégory B. Alors, j'ai parlé de Villepin juste avant, il me semble, hein, c'est ça, hein, donc peut-être la prison pour Villepin. Et bah, ça tombe bien parce qu'on va écouter la messagerie du portable de ce cher Dominique.
Oh là là, oh là là.
Vous avez un nouveau message.
Oui, Dominique, c'est Jean-Pierre Trébert, le beau gosse des forêts. J'ai vu que vous risquez d'avoir besoin d'un petit coin discret dans les jours à venir, donc si vous voulez, je sous-loue une cabane dans les bois, c'est tout confort, bon, c'est de la coloc, hein. On partage les frais, les corvées avec des potes qui sont recherchés comme moi. Bon, faut aimer la cuisine orientale épicée quand c'est Oussama qui fait à bouffer, mais sinon c'est très bien, voilà. Ben rejoins-nous, bijoux, mon héron cendré.
C'est dommage qu'on voyait pas ma tête, hein, parce que c'était assez drôle.
Ah oui, je le voyais de profil avec la langue qui sort, c'est bizarre.
C'est magnifique. Ouais. Hein. Alors, l'autre actu...
Juste une 30 secondes. C'est assez incroyable qu'on retrouve pas ce monsieur.
Ah, inouï.
C'est inouï quand même. Il a une connaissance des forêts.
Il a le temps d'envoyer ses cartes postales.
Ouais. Comment vous expliquez, vous, qui avez survolé en hélicoptère des dizaines de forêts?
Même... Tu sais, je me souviens pas d'hélicoptère pour
les
gens des prisons.
C'est Charlie.
Tu sais qu'on ne peut pas approcher des prisons que des hélicoptères.
Je sais, je sais. Oui, mon petit.
Oui, faut que je me dépêche parce qu'après, non. Vous savez, je joue au Splendide.
Oui, vous partez au Splendide.
Mardi au samedi à 20h, bien sûr. Enfin, je dis pas ça pour le rappeler.
Il est prudent de louer.
Alors, l'autre actu qui m'a interpellé, c'est cette nouvelle loi qui va permettre de confisquer les biens acquis malhonnêtement. Vous avez entendu ce truc-là,
oui.
Notamment dans les cités, tout ça, mais pas seulement dans les cités. Et ben, vous savez ce qu'on va faire? On va écouter le répondeur de Jean-Luc Warsmann, le président de cette commission.
Vous avez 2 nouveaux messages.
Oui, bonjour, monsieur Warsmann. Voilà, j'ai lu que la loi Warsmann allait permettre la confiscation des biens malhonnêtement acquis. Mais je me demandais comme ça, par hasard, si un poste de première secrétaire du PS, ça pouvait être considéré comme un bien. Voilà.
Bon, Martine, tu viens, on va être à la bourre.
Oui, j'arrive. C'est Martine, Ricky. Ricky Martine, hein. Un, deux, trois, on passe ton mandat,
c'est son dénion. C'est bien, ça. Surtout en direct, comme ça, sans aucun trucage, hein. C'est fou, hein. Il se pince le nez, il fait toutes les voix.
On pourrait te pincer le nez, d'ailleurs.
Il était ventriloque quand il a débuté.
Ah, je crois qu'il y avait un deuxième répondeur, Michel. Excusez-moi de travailler.
Oui, bonjour. J'ai vu que vous y alliez confisquer les biens malhonnêtement acquis. Alors, est-ce que les sucettes, par exemple, ça compte? Vous pouvez les reprendre? Les images Panini aussi? Hein? Et un poste de président de l'EHPAD? Hein? Eh ben non, parce que mon papa, il est président!
Voilà. Très bien, alors. Et courrier. Le courrier, je vous
le courrier arrive de plus en plus, hein.
Ouais. Va commettre tes choses au Splendide.
Je crée l'événement. Allez, bonne soirée. Merci à vous.
On se retrouve après la pub. en compagnie de Nicolas Cantelou pour le meilleur du matin et de Yann Arthus Bertrand qui nous présente la Terre vue du ciel et Paris vue du ciel ce soir dans cette émission. À tout de suite.
Studio Europe 1.
C'est l'heure du meilleur de Nicolas Cantelou avec Julie.
On l'appelle déjà le charter de la honte. Un avion parti de Londres s'est arrêté à Roissy pour embarquer trois Afghans direction Kaboul. Les réactions sont pour la plupart indignées, même au sein de l'UMP. Nicolas Sarkozy, bonjour.
Oui, bonjour, Mme Julie, Monsieur Fogé, Monsieur Cabrol. Bonjour à tous vos réfugiés du matin.
Ils sont alors, nombreux.
Martine Aubry a qualifié ce charter de la honte. Qu'est-ce que vous lui répondez, Monsieur Sarkozy?
Pardon, oui. Pardon, excusez-moi. J'étais en train de compter les chèvres autour.
Oui, bah, c'est ça. Merci beaucoup. Oui. Alors,
oui, le charter de la honte.
Aubry,
écoutez, voilà. Mme Julie, Monsieur Fogiel, combien d'Afghans sont montés dans l'avion à Roissy? Trois.
Bah, trois.
Trois, vous l'avez dit, trois, c'est une information qui est exacte. Et vous trouvez que trois personnes dans un avion, c'est trop? Moi, je crois que, écoutez, laissez-moi terminer. Vous m'arrêtez si je me coupe.
D'accord.
Moi, je crois qu'à trois dans un avion, ils ont eu de la place pour les jambes.
Oui,
que sache.
Ça, oui.
Trois dans un avion, c'est même plus de la business class. Demandez à M. Cabrol, c'est carrément du jet privé.
Non, ça,
alors,
vrai.
De quoi se plaint-on?
Hein, Laurent Cabrol. En déplacement, vous avez déclaré très fermement que vous ne toucheriez pas au bouclier fiscal.
Je l'ai dit et je le redis, je ne lâcherai rien sur le bouclier fiscal et puisque vous me poussez dans mes retranchements, je ne lâcherai rien non plus sur le bouclier filial.
Le bouclier filial.
Tout à fait. Mais en plaçant mon fils Jean à la tête de l'EHPAD, je suis un petit peu l'inventeur du bouclier filial.
Ah. Oui, oui, vous assumez.
Moi, c'est
alors,
une sorte de jeu de mots qui marche ou qui marche pas, selon si on est sur la chanson sur Europe 1, mais ça vaut ce que ça vaut. Je fais ce que je peux.
Les chèvres que nous sommes. Je reviens sur le cas de ces Afghans expulsés qui sont de retour à Kaboul. Ils sont à l'hôtel pour 15 jours. Monsieur Sarkozy, l'Afghanistan reste un pays en guerre, un pays dangereux. On les a un peu abandonnés.
Abandonnés, mais écoutez, ça c'est quand même extraordinaire.
Quoi?
Je ne peux pas vous laisser dire cela. D'ailleurs, j'ai envoyé un de nos meilleurs secrétaires d'État un jour avant pour les accueillir leur arrivée à l'aéroport.
Et c'est qui ce secrétaire d'État, on peut savoir?
Le secrétaire d'État, Gilbert Montagnier. Accueillir des personnes hein, qui vont passer 15 jours à l'hôtel, à l'étranger. En plus, Gilbert Montagnier me paraissait le meilleur d'entre nous. Hein, Gilbert?
Ah oui, oui, bonjour, bonjour à tous. Ah vraiment, moi je suis content d'être là. Ah oui, je les ai bien accueillis, vraiment. J'aurais montré leur chambre. J'aurais même chanté une chanson de bienvenue. Ça faisait... Vive sous le soleil de Kaboul, à l'heure d'hiver c'est facile.
Allez,
quand on chante, viens danser, bébé,
oui, bon,
viens
merci,
danser.
Merci Gilbert, ça ira comme ça. Merci, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
L'avocat de Dominique de Villepin s'est exprimé pendant 4 heures, il a demandé la relax. Dominique de Villepin, bonjour.
Bonjour.
Comment vous sentez-vous aujourd'hui, monsieur de Villepin?
Je me sens meurtri. Je me sens un peu tendu, je vous avouerai que je ne me sens pas très relaxé pour l'instant.
Ouais.
À ce propos, j'avais un petit message, un ami qui nous écoute.
Ah bon, qui ça?
Jean-Pierre. Jean-Pierre. Trébert.
Oh.
Jean-Pierre, c'est Dominique. Si tu pouvais préparer un trou avec quelques feuillages et des châtaignes, je ne devrais pas tarder à arriver. À très vite, Jean-Pierre.
Merci, Dominique de Villepin. Des voix s'élèvent contre le grand emprunt, y compris à droite. Le grand emprunt qui était la mission confiée à Alain Juppé et Michel Rocard. Et c'est Alain Juppé qui est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour, Madame Julie, Monsieur Cabrol, Monsieur Fogé, les consorts. Bonjour
Juppé.
À vos joyeuses troupes.
Alors, première question, à combien va s'élever ce grand emprunt, Monsieur Juppé?
À combien le grand emprunt? Je ne sais pas encore. 30 milliards, 40 peut-être, 100 milliards, je ne sais pas.
Bon, continuez à vous interroger.
Avec vous.
L'emprunt sera-t-il lancé auprès des investisseurs privés ou du grand public?
Alors sur ce point, par contre, je n'en sais rien non plus.
Évident.
Public, privé, vous savez, allez savoir.
Pour beaucoup de députés UMP, ce grand emprunt est une mauvaise idée. Il pourrait être abandonné, Monsieur Juppé?
Alors ça, c'est la grande question. Est-ce que mon projet va partir à la poubelle? Ou par la fenêtre? Ou finir dans la broyeuse? Qui sait? Sinon, j'ai juste une petite question.
Ah bah allez-y, Monsieur Juppé, allez-y.
Pour m'assurer, à propos du grand emprunt, est-ce que ça se voit que je n'en ai rien à foutre? Vous savez, le grand emprunt, le petit, le gros, le moyen, si vous savez ce que je m'en tape, la grippe aussi, je m'en fous. Le trou de la sécu, si vous saviez. À part la météo de Laurent Cabrol sur Bordeaux, tout le reste, je m'en tape le coquillard.
Alors, la météo sur Bordeaux.
Ça sera de la pluie, monsieur.
Eh bien, ça se confirme.
La campagne de vaccination contre la grippe A a commencé. On rappelle que se faire vacciner le plus tôt possible est important, puisque l'injection met 3 semaines pour protéger le corps.
3 semaines pour... Non, mais alors là, non, ça dépend. Dites-vous pas n'importe quoi, Mme Julie.
Maïté, alors, Qu'est-ce que vous voulez dire?
Mais parce que quand moi j'ai voulu me faire vacciner, oui, le médecin m'a dit que le vaccin mettrait non pas 3 semaines, mais 6 mois à être efficace. C'est le temps qui parcourt mon avant-bras jusqu'à tout le reste des parties de mon corps.
Allez, bon courage alors, Maïté. Autre chose, nous devons nous excuser maintenant parce que nous avons oublié un anniversaire, l'anniversaire de quelqu'un que vous aimez beaucoup, Marc-Olivier, c'est Sœur Emmanuelle.
Ah oui.
Le 20 octobre, c'était l'anniversaire de sa disparition. Alors
il
on va.
Il était trop tard, Marc-Olivier.
On va tenter une liaison, bah ça marche. Une liaison avec Sœur Emmanuelle tout de suite.
Oui, oui, il y a des claques qui se perdent. Alors mon petit Marco, ma petite Julie, mon petit Laurent, on pense plus à moi, mon anniversaire.
Bah, on a oublié. Bah,
vous n'avez pas écouté Europe 1, Sœur Emmanuelle à 7h-2 l'autre jour, puisque on a mis Yalla comme chanson pour vous souhaiter un bon anniversaire.
Mis Yalla.
Mais Julie non plus. Elle, elle était là en revanche.
J'avais oublié. Sinon, ça va là-haut, Sœur Emmanuelle?
Oh, là-haut, écoute, c'est la routine, ma petite Julie. Beaucoup d'arrivées, peu de départs. Attends, il y a un ange qui me parle.
Quoi, ah, il y a un ange qui vous parle?
Oui, attendez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec Saint-Pierre?
Quoi?
Il était limogé?
Saint-Pierre?
Oh, mais il est remplacé par qui? Jean Sarkozy. Mais il monte pas maintenant, le petit Jean Sarkozy. Ah, il réserve le poste pour dans 80 ans. Oh, mais même ici, il m'emmerde, ce petit con. Allez, Yalla, Yalla.
Il est partout. Merci, Sœur Emmanuelle. Et c'est vrai qu'on avait passé Yalla.
Bah, je vous le confirme.
Bah oui, j'avais oublié. C'est Nicolas qui s'en souvient pas, en fait.
Mais moi, j'écoute pas en rentrant.
Et puis, et pour terminer, il passe nous voir pour nous donner le menu de son émission, c'est Nagui.
Eh oui, salut Lolo, Marco, Julie, bonjour à tous. Décrochez le soleil avec cette destination de rêve. Aujourd'hui, direction Kaboul.
Oh là là.
C'est jour de rêve, oui. Vous partirez en vol de nuit de Roissy. Mm-hmm. Vous passerez 15 jours dans un de nos hôtels de rêve de la capitale afghane. Et là, la cerise sur le gâteau,
oh là là,
Julie, à la fin de vos 2 semaines de vacances, vous aurez le droit de rester sur place. Rendez-vous tout de suite entre 9h30 et 11h dans Décrochez le soleil.
On va peut-être pas jouer aujourd'hui alors.
Quel talent, Nicolas Cantelou, Julie, la revue de presse dans la matinale dans Europe 1 Matin avec Marc-Olivier Fogiel, c'est tous les jours à 8h44, 45, 44. Allez, je vous le fais à 44.
Michel Drucker,
Wendy Bouchard, Studio Europe 1.
Studio Europe 1.
Yann Arthus-Bertrand est notre invité, Paris vue du ciel, la terre vue du ciel, puis le documentaire qui a été diffusé hier, vue du ciel sur ce France 3. La télévision, c'est nouveau. Quand je vous ai rencontré Yann il y a très longtemps, on a fait des photos ensemble, il n'était pas question que vous veniez à la télévision, et c'est devenu maintenant un exercice qui vous plaît beaucoup, qui n'a pas été facile au début.
Oui, c'était terrible. D'abord, j'ai refusé, et puis c'est ma femme qui m'a dit, écoute... Essaye, parce que tu as tellement envie de convaincre la télévision, tu parles en un soir quand même à quelques millions de personnes, donc c'est une petite carte blanche, fais-le. Donc j'ai accepté, c'est Jean-Louis Romieux qui m'a posé de faire de faire des essais. C'était dramatique au départ, parce que les journalistes m'avaient écrit des textes que j'avais pas écrit moi, et j'étais incapable de les dire. Alors on avait fait des tests un jour, on avait signé avec France 2, et donc je partais, mais j'étais incapable de lire les textes, j'arrivais pas à les apprendre. Et alors ils avaient mis un prompteur, et même dans l'hélicoptère on avait un prompteur, on me filmait avec une glace devant, et un jour le prompteur casse, donc tout le monde panique, j'arrive plus à faire mon texte.
Mais vous pas du tout fait pour le prompteur.
Et alors donc j'ai réécrit mes textes dans la nuit, puis je me suis mis, et je dois reconnaître que j'aime parler à la caméra et essayer de convaincre. Puis surtout j'aime rencontrer des gens, j'essaye toujours de rencontrer des gens que j'aime. Cette émission est formidable, je mets en avant des modèles pour moi, des gens qui font des choses pour les autres, et d'ailleurs l'émission de plus en plus va aller vers ça, de montrer je pense qu'on manque de modèles. On prend des grandes âmes, des gens qui font plus que nous, qu'on a envie d'admirer, et je vais à la recherche de ces gens-là. C'est ce que j'ai envie de faire maintenant.
Alors Yann Arthus-Bertrand, justement, la télévision, c'est une chose, une étape ou un pas. Cela dit, les messages passent plus facilement par le cinéma. C'est ce que vous disiez, c'est une caisse de résonance, évidemment, qui touche plus de monde. Home en a été, en l'occurrence, aussi, ou le syndrome du Titanic, aujourd'hui, un exemple. Il faut faire les deux, toujours passer les messages écolos au cinéma, sur le grand écran et sur les petits écrans.
D'abord, c'est un message de conscience. C'est plus que l'écologie aujourd'hui, c'est d'essayer de réfléchir comment... comment ce qu'on vit? Est-ce qu'on peut continuer à vivre comme ça? Donc c'est compliqué parce qu'aujourd'hui tout ce que je dis, tout le monde le sait en fin de compte, mais personne ne veut le croire. Espèce de déni collectif quand on parle de la fin du pétrole, qu'on consomme trop, qu'on mange trop de poissons. Tout le monde le sait, on est d'accord, parce que tous les chiffres qu'on donne, c'est les chiffres des Nations Unies, mais personne ne veut le croire. Alors on continue en se disant, mais on peut rien faire. Moi, je crois qu'on peut changer un petit peu, commencer à changer.
Donc plus l'image est grande, plus c'est choc.
C'est pas ça, c'est que le cinéma, je m'en suis aperçu quand j'ai fait venir Al Gore à l'Assemblée Nationale, dans une grande salle noire, avec tout le monde qui regarde la même chose, une espèce de concentration, on communie dans quelque chose qui n'est pas la télévision. Télévision, on peut aller l'ouvrir, je sais pas quoi. Le cinéma, c'est quand j'ai fait venir Al Gore que je me suis rendu compte que faire un film, c'était différent. Et derrière un film, parce que c'est une grosse industrie, il y a énormément d'argent pour la communication, ça change les choses. Et d'ailleurs, mon film a souffert être un film gratuit distribué d'une façon différente. Par exemple, aux États-Unis, le film n'a été vu par personne, parce qu'il n'y avait pas d'argent pour payer des affiches. Donc les cinémas n'ont pas voulu ouvrir. On ne peut pas aller aux Oscars, parce qu'aux Oscars, si un film n'a pas été. Les gens n'ont pas payé pour le voir, bien il sûr. N'existe pas. Donc voilà, je ne sais pas si je referais le même principe, mais j'ai adoré faire ça, et surtout, cet été, j'avais des projections sur les plages, dans les écoles. Je sais pas, c'est différent le cinéma. C'est une espèce de magie qui n'y a pas dans un écran de télévision.
On vous retrouve dans quelques instants. On va parler de cinéma d'ailleurs, parce que le cinéma, il est passé dans votre vie, vous étiez très jeune.
Juste après la pause, justement, en archive, on retrouvera également Jacques Pradel pour son coup de cœur du soir.
Studio Europe 1.
Studio Europe 1.
19h, 20h30.
Michel Drucker, Wendy Bouchard.
Yann Arthus Bertrand est là. On va écouter ça. Ça vous rappelle quoi, Yann Arthus Bertrand? Si je vous dis ouais 1617, prends des vacances.
Oui. Hein? Ça c'est longtemps, dis donc, c'est quand j'étais acteur.
J'avais 18 ans.
Oui, j'avais 18 ans. Et oui, je voulais faire du cinéma, je suis peut-être devenu un acteur d'ailleurs, peut-être que je joue mon rôle aujourd'hui.
Puis vous êtes mis à aimer la nature et les animaux et voilà.
Exactement.
Le chemin a bifurqué.
Le cinéma n'était pas mon milieu.
Mais ça avait commencé avant avec un petit rôle aux côtés de Michel Morgan.
Exactement.
Dans un film d'Étienne Perrier, Dis-moi qui tu es.
Moi j'ai tenu, Michel Morgan dans
tueur du terme.
Dans mes bras, je l'ai embrassé. Voilà,
vous lui avez dit, t'as de beaux yeux, tu sais.
J'avais 18 ans, elle en avait, je sais pas quel âge elle avait. Quarantaine d'années.
Ah ouais, était...
J'étais déjà amoureux, hein. Elle était magnifique.
Vous n'étiez pas fait pour ça parce que trop envie de liberté?
Non, mais la nature et les animaux m'ont attrapé très vite et j'ai découvert que c'était
vraiment
le sens de ma vie.
À l'époque, parce qu'on vous voit dans le film rouler à Saint-Tropez dans une voiture américaine avec Michel Morgan, et à l'époque, vous avez, dans une interview que vous donnez à Libération il y a quelques années, vous avez dit à l'époque j'avais la grosse tête.
Et bien sûr, parce que d'un seul coup, à 18 ans, je me trouvais comme un acteur de cinéma. Je tournais sur le port à Saint-Tropez avec toutes les filles autour et j'avais loué une voiture américaine avec un chauffeur et j'ai claqué le cachet que j'avais eu. En un mois, j'ai claqué mon cachet. Est-ce que c'est ce que devait gagner mon père en un an? C'était terrible, tu vois. Et voilà, j'ai flambé. Et en plus, j'étais pas un très bon acteur. J'avais pas pris ça au sérieux.
Et ça vous sert pas quand même quand vous êtes face à la caméra dans les émissions de télé, non?
Non.
Vous avez une voix quand même.
Non, parce que
une voix qui est tellement reconnaissable que Nicolas Canteloup l'imite régulièrement.
J'essaye d'être vrai, d'être moi. Et quand on essaye d'être quelqu'un d'autre, ça marche pas.
Ce qui est fou, c'est que vous avez découvert un peu vos deux passions, la photographie aérienne et puis évidemment l'environnement, les animaux, la nature. Par hasard, vous rencontrez votre première femme et vous allez vivre en forêt, vous avez 20 ans. Et puis la photo aérienne, idem, vous vous installez au Kenya et puis vous prenez plaisir à commencer la photo. C'est venu comme ça naturellement dans les pérégrinations, dans les balades.
Oh, je l'ai raconté souvent, mais moi je voulais être scientifique. Je voulais passer une thèse sur le comportement des lions et je me suis aperçu que la photographie donnait une information qui était différente de celle de l'écriture et qui était indispensable. Et je suis devenu photographe avec les lions. Et je dis souvent en rigolant, mais il y a quelque chose de vrai, ce sont vraiment les lions qui m'ont appris la photographie, ils m'ont appris la patience, la lumière, de faire avec ce que j'avais. Et ils m'ont surtout appris pendant ces 3 ans où j'ai complètement vécu avec eux, que je faisais partie de la nature. Il n'y avait pas d'un côté le parisien que j'étais, puis l'autre côté, les côtés de la nature. Non, je faisais moi-même partie de cette nature.
Il est 19h46, c'est des poussières.
47
c'est
le, même.
C'est l'heure
pourquoi tricher.
C'est l'heure du coup de cœur.
C'est l'heure du coup de cœur.
Ouais, j'ai voulu gratter une minute.
C'est mais ça, oui. Mais le réalisateur Jean-Luc Arblat, c'est tout.
Il l'a vu.
C'est...
Il l'a vu, j'avais
grogé, oui, on peut le dire.
J'ai voulu lui faucher une minute, mais c'est trop tard.
Alors, c'est, coup de cœur. C'est Jacques Pradel ce soir, que vous connaissez bien,
Jacques
Michel.
Pradel. Le Café Crime, il s'intéresse à tant de choses, Jacques Pradel.
Tous les jours sur Europe 1.
Il s'intéresse également à tout ce qui vole. C'est un pilote, Saint-Exupéry, et si vous l'écoutez tous les jours, eh bien, vous revivez des moments importants de l'histoire des faits divers. Alors, son coup de cœur, on l'écoute?
On l'écoute.
Studio Europe 1.
Coup de cœur de star.
Mon premier coup de cœur, c'est un coup de cœur de saison parce que je vais vous dire deux mots d'un roman qui vient d'être publié dans le cadre de la rentrée littéraire de cet automne. L'auteur est un romancier et journaliste mauricien, et c'est assez rare pour le noter, qui vient de publier aux éditions Julliard un roman qui s'intitule Devina, D-E-V-I-N-A. Et c'est une histoire qui prend sa source dans un fait divers, un cold case, comme on dirait aujourd'hui, qui s'est produit sur l'île Maurice en 2001, l'assassinat dans sa baignoire, c'est un crime horrible, d'une jeune héritière des Blancs mauriciens, qui s'appelait Vanessa Lagesse. Et c'est une histoire, c'est un crime passionnel. Ce qui est remarquable dans ce livre, c'est qu'on part d'un fait divers, mais derrière, on comprend mieux ce qu'est l'île Maurice aujourd'hui, avec toutes ses communautés, les hindous, les arabes, les musulmans en tout cas, et également évidemment la communauté créole et les blancs qui représentent 3% de la population mais 60% de l'activité économique. C'est un livre remarquable qui est aussi un livre très romantique et il y a vraiment derrière un véritable écrivain. Mon deuxième coup de cœur, c'est une exposition qui vient de commencer à Versailles, au château de Versailles, qui s'intitule Louis XIV, l'homme et le roi. C'est une occasion, derrière le personnage public du Roi Soleil, de comprendre un peu mieux qui était cet homme dans la vie quotidienne, mais qui était cet homme aussi comme collectionneur, comme supporter ou comme sponsor, on dirait, des artistes de son époque. Alors je vous passe les tableaux, les dessins, les camées, les bijoux, et je m'arrêterai sur un objet. Et cet objet est vraiment formidable. C'est une sculpture en cire d'abeille. Quand on est devant cette sculpture, devant ce portrait du Roi Louis XIV, qui est déjà adulte, sur lequel on peut voir les marques de la petite vérole parce qu'il a demandé, vous savez, on parle toujours de ces photos qui paraissent dans les magazines et qui sont retouchées. Lui, il a demandé qu'on ne retouche pas son portrait. C'est un grand artiste de son époque qui a fait donc cette sculpture réalisée en cire d'abeille. On a vraiment l'impression d'être devant ce bonhomme et c'est exceptionnel. C'est comme une photo 3D de son époque.
Ne ratez pas tous les jours, c'est à 13h30 Café Crime. Hein,
13h30, oui, 13h30.
À tout de suite.
Juste après la pause, Yann Arthus Bertrand et l'entrée applaudie et appréciée de Bernard Werber pour son ouvrage Le miroir de Cassandre.
Studio Europe 1.
Studio Europe 1.
19h, 20h30.
Michel Drucker, Wendy Bouchard.
Yann Arthus Bertrand est encore avec nous. On accueille maintenant le romancier Bernard Werber, que je vous demande d'applaudir.
Bonsoir.
Pour Le miroir de Cassandre, qui vient de sortir. Alors, ça, c'est assez fascinant. Le miroir de Cassandre, c'est l'histoire d'une dame qui devine ce qui va nous arriver, enfin, qui devine le futur, mais personne ne la croit.
Oui, c'est déjà ce qui est arrivé à l'ancienne Cassandre, la mythologie grecque.
Ouais.
Elle a été visitée par Apollon, qui lui a dit, vu qu'elle est mignonne, je vais lui filer un super don, celui de voir le futur. Mais après, vu qu'elle a refusé de faire l'amour avec lui, il a dit, ben, je lui enlève pas son don, mais je vais lui rajouter une malédiction. C'est quand elle en parlera, personne ne la croira.
Alors, elle a reçu,
c'est ce qui s'est passé.
Elle a reçu d'un inconnu un étrange cadeau, qui est une montre, qui indique le pourcentage de probabilité de mourir dans les instants suivants.
Oui, ça m'amusait beaucoup cette idée. Surtout, j'avais visualisé la première scène qui était quelqu'un qui saute du haut de la tour Montparnasse,
oui,
et qui, au fur et à mesure qu'elle descend, enfin, qu'il tombe, il regarde sur sa montre et voit les probabilités de mourir dans les 5 secondes qui n'arrêtent pas d'augmenter. Et juste avant de toucher le sol, tout d'un coup, la probabilité qui était à 90 remonte pour arriver à 30. Et elle essaie de comprendre, enfin, il essaie de comprendre ce qui se passe. Et juste à ce moment-là, il y a un camion qui passe. J'avais ce visuel, cette première scène, qui le sauve. Et alors qu'il pense qu'il est sauvé, tout d'un coup, il voit que la montre remonte à 90. Et là, il y a un camion qui vient le percuter. Donc, il y avait cette double détonation. Je me suis dit, ça y est, comme ça, on est en plein dans l'action, très, très vite, dès la première page. On perd pas de temps, on fonce.
Alors, vous comprenez comment cette jeune fille qui a 17 ans, qui est lycéenne, a priori normale, n'est pas très bien acceptée par ses petites camarades. Du coup, elle part de son lycée. Et puis, elle entreprend une sorte de clochardisation. Elle va se retrouver dans une décharge avec des amis plus ou moins SDF comme elle.
Elle va retourner au monde primitif qui existe tout près de chez nous, qui est le monde des SDF. Mais j'ai imaginé une sorte de décharge qui est une jungle moderne. Mmh. Ce qu'on va voir bientôt, on a vaguement Marignane qui est déjà une décharge à ciel ouvert qui fonctionne comme ça, qu'on n'arrive pas à gérer. Moi, j'ai imaginé que dans un futur très proche, vu qu'on n'arrive pas à gérer les déchets, il va apparaître des populations qui vont vivre dans ces déchets, qui vont être des sortes de Gaulois primitifs qui vivent hors de la société, mais tout près de la société. Et c'est eux qui, par leur comportement complètement basique, vont en fait être dans le vrai et vont pouvoir l'écouter.
Vous voyez combien finalement vos univers peuvent se rapprocher
positif,
c'est vrai. Mais sur l'écologie et l'environnement, c'est assez présent dans votre œuvre, Bernard Werber. Je ne sais plus si c'est dans Paradis sur mesure, mais je crois que c'est là où vous crucifiez les pollueurs sur les arbres au Central Park.
Oui, et l'on prendra tous les pollueurs. C'est une nouvelle où j'imaginais que vu qu'il y a un problème de pollution et qu'on n'arrive pas à moraliser les gens, finalement il y a une sorte de président de l'ONU qui dit maintenant dès que vous polluez, on vous tue. Puis comme ça c'est réglé.
On n'ira pas aussi loin.
C'était une petite nouvelle, mais ça me permettait de réfléchir, regardons qu'est-ce qui se passerait si on poussait l'idée de lutte anti-pollution jusqu'au bout. Et ça m'a permis, c'est l'avantage de faire la science-fiction, ça m'a permis d'aller au bout d'une idée, ne pas rester juste en périphérie, mais d'y aller à fond et de s'amuser avec.
Yann Arthus-Bertrand, encore quelques secondes avant de nous séparer, avant d'écouter Isabelle Boulay qui chante l'hymne à la beauté du monde, qui évoque la protection de la planète. Qu'attendez-vous de ce sommet de Copenhague? D'ailleurs, votre fondation qui s'appelle Good Planet est concernée par...
Oui, on est installé là-bas, on a loué un cinéma et on en a fait un QG pour les ONG. Tous les ONG peuvent venir discuter et on va passer tous les jours des films sur l'environnement.
Vous en attendez quoi alors de Copenhague?
Et on a fait une chose que on a travaillé sur le projet 6 milliards d'autres où on a fait 700 interviews dans le monde de gens qui souffrent aujourd'hui du changement climatique. Et c'est pas les politiques, c'est pas des scientifiques, c'est pas des journalistes qui parlent, c'est les gens eux-mêmes. Et c'est très émouvant. Et ce petit DVD d'1h10 d'interview est distribué gratuitement à toutes les télévisions du monde qui peuvent s'en servir pour avoir un outil pour parler du changement climatique. J'en attends beaucoup de prise des consciences des journalistes, des politiques et de l'opinion publique et ça va être un grand débat public sur le changement climatique. C'est pas un réchauffement, vous savez, le climat c'est quelque chose de très fin, de très stable, et depuis 10 000 ans qu'on est en train un petit peu dérégler et on met en danger, je pense, notre civilisation.
Merci Yann Arthus-Bertrand. Avant de vous quitter, on va écouter ça, c'est une magnifique chanson sur le thème de la protection de la planète.
Du monde. Ne tuons pas le chant des oiseaux, ne tuons pas le bleu du jour. Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas la beauté du monde.
Merci beaucoup, Yann Arthus-Bertrand. À très bientôt. Revenez nous voir de temps en temps.
Merci.
On va retrouver la littérature avec Bernard Werber et son dernier roman dans un instant. Mais d'abord, Alexandre Delperrier est là. Quelle soirée hier!
Énorme, hein. Le foot français qui s'est offert en une journée de Ligue des Champions deux ogres européens, Liverpool et le Bayern Munich. Est-ce que les clubs français rattrapent le retard sur les grands clubs européens? On en parlera. Ou est-ce que c'est juste dû à la méforme de Liverpool et du Bayern Munich? 39-21, le Bordelais, Michael Siani sera avec nous. Et puis le hold-up du jour, il est signé M6. Irlande-France, le 14 novembre, sera sur M6 et non sur TF1. Un match que vous pourrez évidemment suivre aussi sur Europe 1, cela va de soi. C'est un événement. Tiens, écoutez ce qu'en pense Jean-Claude Darmon, l'homme d'affaires et ancien grand argentier du football français.
De la part de TF1, c'est une très très grave erreur. Et je ne comprends pas que TF1 ait s'échappé cette affaire. Et là, ils se sont laissés endormir. peut-être que TF1 n'a pas eu assez d'audace pour mettre beaucoup, beaucoup d'argent et s'emparer de ce match clé.
On en parlera avec Nicolas Taverneau qui sera avec nous, le président d'M6 et le propriétaire des Girondins de Bordeaux. On parlera de Lyon également. Lyon qui a confirmé son très bon début de saison. Anthony Réveillère sera avec nous et on évoquera le choc. Bien sûr, d'abord la victoire de Marseille et puis le choc Marseille-PSG de dimanche soir.
Merci, à tout à l'heure.
Dans une minute, les infos. Jean-Michel Duez.
Studio Europe 1.
Studio Europe 1.
19h, 20h30.
Michel Drucker, Wendy Bouchard.
La dernière partie de l'émission, on va retrouver Bernard Werber dans un instant, mais d'abord le sommaire de cette dernière partie.
Avec des rendez-vous d'archives, de musique et d'humour pour cette dernière demi-heure. Dans un instant, nous serons en duplex du Théâtre du Rond-Point avec Pierre de Villeneuve pour le spectacle de Christophe à l'évêque qui s'achève dans quelques minutes. À 20h15, les répondeurs VIP de Jérôme Daran, l'actu au crible évidemment de ses répondeurs. Et puis Raphaël Mesrahi nous rejoint, on propulsera sa Morissette 85 ans dans le futur. C'est en public et en direct cette émission, vous nous appelez au 3921.
Studio Europe 1.
Wendy Bouchard, Michel Drucker.
Bernard Werber, le miroir de Cassandre roman. Alors, évidemment, c'est un titre qui fait référence à la mythologie grecque. On peut rappeler quand même qui était Cassandre, qui était une grande beauté.
Oui, et qui avait
fait les promesses à Apollon.
Oui, mais qui avait le pouvoir de voir le futur, et en fait, ça compliquait la vie à tout le monde. Mais si on regarde bien dans le passé, la plupart des visionnaires, la plupart des gens qui ont annoncé ce qui allait se passer ont été rejetés ou n'ont pas été écoutés, parce qu'en fait, je crois que les gens ne sont pas intéressés par le futur. Tout le monde dit qu'ils veulent savoir ce qui va se passer dans le futur, mais si on leur dit, ils en ont très peur. Et c'est ce que va découvrir mon personnage de Cassandre, c'est qu'en fait, quand elle dit le futur, elle pose des problèmes à tous les gens et qui préféraient qu'elle se taise. Et donc, elle va vivre à l'intérieur et ça va m'amuser de montrer ce monde intérieur dans lequel elle est en pleine conscience, entourée de gens qui ne sont pas encore à son niveau pour pouvoir la suivre.
C'est vraiment le parcours initiatique de cette jeune fille qu'on suit aussi, elle qui est très presque mutique, qui parle peu et puis qui ouvre sa sensibilité au fur et à mesure qu'elle découvre les choses.
Oui, elle est un peu autiste.
Oui, elle est autiste. C'est un conte initiatique, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en descendant avec ce groupe de clochards qui vivent comme des primitifs, comme une tribu d'Amazonie, elle va se transformer. Cette jeune fille va se transformer en femme et en même temps cette personne qui est fermée va s'ouvrir au monde. Et elle a comme fil directeur la passion des mots. C'est-à-dire qu'elle est intéressée de comprendre les mots, pas juste prononcés pour parler, pour dialoguer, mais dans leur vraie étymologie. Par exemple, elle va dire, à un moment, le mot maladie vient de maladire. C'est parce qu'on n'arrive pas à prononcer les choses qu'on en souffre. Elle va expliquer comme ça avec son amoureux, parce qu'il y a une histoire d'amour avec un personnage qui s'appelle Kim. Elle va lui expliquer, attends.
Alias Marquis.
Voilà, le Marquis, elle va lui dire, le vrai trésor, il est dans nos têtes. On n'a pas besoin d'avoir autour de nous des palais, des objets de consommation dont nous n'avons pas besoin. Le vrai trésor, c'est accumuler des mots et les comprendre vraiment. Alors, par exemple, elle essaie de comprendre le sens des prénoms. Un personnage qui s'appelle Philippe, qui va dire j'aime les chevaux, elle va comprendre qu'à travers ce prénom, il y a déjà la clé de sa vie. Elle s'appelle Cassandre, à travers ce prénom, il y a la clé de tout ce qu'elle doit faire. Mais elle va trouver aussi des tas de mots dont qu'on utilise, dont on ne connaît pas vraiment le sens. Je vous en citer un. Par exemple, en anglais, le golf, vous savez ce que ça veut dire le golf ? Gentleman only, lady forbidden, ça veut dire les hommes sont autorisés et les femmes sont interdites parce que c'était un sport anglais qui était complètement coupé aux femmes.
C'est presque l'inverse aujourd'hui. vous permettez des petites critiques aussi du monde qui vous entoure et c'est normal quand on est aussi écrivain. Oui. Vous dites justement sur les biens matériels, les gens devraient se poser trois questions avant d'acheter quelque chose. Est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce que j'en ai vraiment envie ? Est-ce que je peux m'en passer ?
Exactement, c'est la clé, ça poursuit la conversation qu'il y avait avec un artiste. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se poser une question. Est-ce que quand on achète un objet, on n'est pas en train de causer un déséquilibre? Il y a un moment où la vraie question écologique est une question d'harmonie. Est-ce qu'on est en harmonie, non pas avec les publicités qu'on a entendues, mais est-ce qu'on est en harmonie avec ses besoins réels? Et mon personnage de Cassandre, qui ne parle peu, elle est en harmonie avec elle-même. C'est-à-dire, elle ne prend pas les objets dont elle n'a pas besoin, et elle se pose réellement la question, qu'est-ce qui me fait plaisir ? Peut-être que c'est ça que j'ai essayé de transmettre dans ce livre, c'est se poser la question, de quoi a-t-on besoin ? Et qu'est-ce qui nous fait réellement plaisir?
Il y a une chose importante dans votre livre, c'est l'attribut des oubliés de la société, hein, les rédemptionnés.
Rédemptionnés, voilà. Ils ont créé un village dans une sorte de décharge. Mais ce village, en fait, il fonctionne très bien. Ils sont très heureux. Moi, j'ai assisté, quand j'ai voyagé dans plein de pays, des sortes de villages qui étaient construits dans les dépotoirs, et je voyais des gens qui, juste en récupérant les objets de consommation rituelle, fabriquaient des choses extraordinaires.
Si vous allez voir le film de Jean-Pierre Jeunet, Danny Boone, Micmac à Tire-Larigot, il y a le village des oubliés.
Le recyclage aussi, le sens du recyclage.
C'est des chiffonniers qui vivent sous terre, voilà. Et c'est exactement ce que vous décrivez, c'est assez facile.
Ce qui m'a amusé dans ces personnages, d'abord sur ce livre, tout spécialement, j'ai essayé de développer des personnages très attachants. Donc c'est Esmeralda, l'ancienne prostituée, c'est Orlando, l'ancien mercenaire, Fetnat, l'ancien marabout sénégalais, et Kim, le
jeune asiatique
coréen. Voilà. Et c'est les rédemptionnés qui vont en fait être sa vraie famille. Elle qui a tout le temps été privée de famille, qui a eu tout le temps l'impression de ne pas être comprise, elle va trouver avec ces quatre personnages des gens qui semblent très repoussants et qui finalement ont un vrai cœur et sont réellement connectés au monde, aux vraies valeurs et qui vont vraiment l'aider et l'écouter.
Je voulais savoir comment vous avez travaillé pour avoir la matière de cet ouvrage. Je me souviens que pour la trilogie des fourmis, vous aviez fait un vrai travail d'enquête, parce que vous êtes journaliste d'investigation, vraiment poussé sur les migrations, les colonies de fourmis, etc. Là, vous avez vécu un peu la clochardisation à votre insu quand vous étiez
jeune. J'ai eu une expérience étrange, en fait, que je ne regrette pas. C'est qu'à 18 ans, je suis parti aux États-Unis, et dès le premier jour, je suis parti avec un ami, et dès le premier jour, on est arrivé sur la 5e avenue, et on s'est fait entièrement détrousser. Et il y avait le choix, soit on rentre à Paris d'urgence en se faisant rapatrier, soit on essaie malgré tout de continuer le périple. Et on a tenu 2 mois aux États-Unis à vivre avec les plus pauvres de la société américaine. Et cette expérience qui a été un peu dure m'a permis de voir ce que c'est quand on n'a plus rien et quand on économise son argent pour avoir un repas. Toutes ces choses-là, je crois, on devrait, je vais pas dire, tout le monde devrait les faire vivre au moins une fois dans sa vie pour savoir ce que c'est et comprendre ces gens qui par moments font la mendicité dans la rue, qui ne sont pas n'importe qui et qui ont parfois des passés extraordinaires. Et sinon, l'autre expérience que j'ai faite pour comprendre ce livre, c'est que j'ai fait une conférence auprès des clochards à Paris. Et c'est marrant parce qu'on pense tout le temps qu'ils sont que dans les besoins primaires, mais ils sont réellement aussi intéressés par des choses culturelles. Et il s'est créé un dialogue. J'ai compris des choses, un peu leur colère. Et en même temps, j'ai découvert des gens extraordinaires, ceux qui s'occupent des clochards à Paris. Et il y en a un qui m'avait donné une idée que j'ai repris dans le livre, c'est leur rappeler leur anniversaire. Parce que c'est là que commence le drame, et c'est pour ça que je dis, c'est finalement un problème de mots.
Ils n'ont plus aucune existence.
Voilà, c'est qu'ils oublient leur jour d'un anniversaire, ils oublient leur âge. Et dès le moment où ils oublient leur âge, là, il y a réellement une chute de la civilisation. Et là, ce groupe que j'avais rencontré, je crois que ça s'appelait le groupe Hibou à Paris, il rappelait aux clochards leur anniversaire et il leur faisait un gâteau avec une bougie qui soufflait et ça remettait les gens dans un cycle de temps. Et je trouvais ça extraordinaire, j'ai repris dans le livre.
C'est
vrai,
c'est très beau.
On vous retrouve dans quelques instants car c'est l'heure maintenant d'aller retrouver Pierre de Villeneuve.
De faire quelques mètres jusqu'au théâtre du Rond-Point pour le spectacle de Christophe Alépec. Christophe est super rebelle, enfin ce qu'il en reste, jusqu'au 14 novembre. Et Pierre, vous en sortez tout juste?
Oui, la pièce vient tout juste de se terminer.
Quand ça se termine à 20h10, précise.
Et super rebelle, vous voyez, ils sont vraiment, c'est une horloge suisse, hein, Christophe Alépec, quand il veut. Un spectacle complètement basé sur l'autodérision, puisque vous voyez, imaginez Christophe Alépec qui arrive avec une cape rouge et or, et avec un slip qui va avec cette cape rouge et or. Il commence par une peinture sociale un peu de nous, c'est-à-dire des habitants du 21e siècle qui nous comparent à des crabes ébouillantés dans de l'eau tiède puis chaude. Comme ça, on se rend compte de rien. On est un peu en perte de vitesse, un peu comme les héros et les icônes de notre temps. Les gens se nourrissent du vide et deviennent de plus en plus gros, dit Christophe Alévèque. Et il prend un exemple assez rapidement. C'est toutes les conneries obligatoires. Je le cite, hein, évidemment, je me permettrai pas de dire des gros mots, mon cher Michel. Comme le gilet jaune dans la voiture. Alors là, il commence à imiter Karl Lagerfeld en disant
faut
ne pas te faire rentrer dedans. Hein. Alors comme ça, évidemment, il a vendu sa voiture. Alors, il faut dire quand même que ça commence doucement. C'est des blagues qui sont un peu grasses, qui sont pas efficaces tout de suite. Et puis après, tout d'un coup, il commence à parler de Nicolas Sarkozy. Alors là, tout d'un coup, évidemment, ça s'illumine.
C'est ton lance-flamme après, hein.
Et oui, non, mais c'est même assez, c'est de l'humour à la schlag, hein. C'est de l'humour à la schlag. Ça va assez vite. Il compare Nicolas Sarkozy à un martien. Il dit que même les chefs d'État d'Europe le regardent avec un œil méfiant. Heureusement qu'il y a Berlusconi. C'est sûr qu'il ne va pas se faire des amis. Hein. Il dit David Douillet qui a 2 mètres et 3 neurones. Enfin bon, tout cela est accompagné d'un orchestre qui sont également tous en slip rouge et or. Je vous laisse imaginer un peu le ridicule de la chose. Plein de thèmes. Et alors,
est-ce qu'ils chantent sur scène?
Oui, ils chantent avec un orchestre complètement loufoque, dont un ressemble à un ado attardé. Et justement, il enchaîne ensuite sur les ados. Et alors là, je peux vous dire que c'est un...
Vous êtes reconnu, Pierre?
Oui, bah oui, vous savez bien, Wendy, je suis un ado attardé, un peu comme tous ces ados qu'il dit, nous sommes un peu comme des S, vous savez, avec les hanches devant, un peu courbés comme ça, on répond un peu mal aux parents, alors il dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sont en S? Ça doit être un code, ils souffrent, ils se cherchent, ils chaussent du 45 et dans leur tête, ils chaussent du 3. Ce sont des branleurs, surfeurs irresponsables. Et alors là, une scène extraordinaire, il se rappelle, Christophe Lévesque, qu'il a emmené ses deux fils, un ado et un pré-ado, au musée. Et alors là, dans la série Les Aventuriers de l'Impossible, je vous conseille la visite d'un musée avec un ado et un pré-ado. À côté de l'Afghanistan, c'est une partie de pétanque.
Merci beaucoup, Pierre. On ira voir tout ça. C'est Christophe Alévac. Merci, Pierre de Villeneuve, au Théâtre du Rond-Point. Christophe, jusqu'au 14 novembre. Et les 20h17 sur Europe 1.
Alors, Bernard Werber, vous êtes avec, je crois, Marc Lévy, un des auteurs français contemporains les plus lus dans le monde, traduit en plus de 30 langues, 15 millions d'exemplaires vendus dans le monde. C'est phénoménal. Comment vous vivez ça? À mon avis, vous n'aurez pas le Goncourt pour demain avec un tel succès.
De toute façon, je sors en octobre, donc je suis sûr de ne pas l'avoir. Mais,
ça ne vous empêche pas de dormir.
Non, mais je crois qu'on a ce qu'on désire. Moi, j'ai essayé de trouver une langue qui soit universelle, à travers le temps, à travers l'espace, qui communique avec toutes les générations. Et je vois mon métier comme métier d'artisan, ça n'a rien changé dans ma vie. Je vis dans le même appartement, j'ai juste deux ordinateurs ou trois ordinateurs au lieu d'en avoir un au début. Et l'ordinateur est mon bureau virtuel dans lequel je me sens bien. Et mon seul souci, c'est le matin, c'est que va-t-il arriver à mes personnages et comment surprendre. Je crois que la grande inquiétude, on n'imagine pas d'un romancier, c'est comment faire pour que la scène que les lecteurs ont prévu ne soit pas celle qu'on va offrir, mais qu'on leur offre mieux que ça et qu'on les surprenne tout le temps. C'est une question de rythme. Et ça, c'est un travail d'artisan.
Il y a une chose très originale, entre autres, dans votre roman, c'est que, en toute fin, après la postface, vous dites « Voici les musiques écoutées durant l'écriture de ce roman. » Et vous nous donnez notamment Nabucco ou le Requiem de Verdi. Bernard, quand vous réécoutez ce requiem, vous faites des gestes, ça vous rappelle exactement ce que vous avez
dit. Je suis avec les personnages. C'est-à-dire que le film de ce livre, puisque pour moi c'est une histoire, le personnage s'est mis à vivre avec cette musique. J'imaginais quelqu'un qui, dans sa tête, a ça, entend cette musique, qui est d'ailleurs une musique qui correspond à un instant terrible de sa vie, et qui se retrouve dans un décor qui a l'air complètement hors du temps, c'est-à-dire ce décor de cette décharge publique. Et cette beauté de cette musique qui est ample, qui est riche, avec le contraste de cette jeune fille qui est en action, qui est perdue dans ce décor extraordinaire, j'avais toute la dynamique de l'histoire. Et là, à ce moment-là, quand on écrit, on se laisse porter par la musique. Et j'écoute au casque, et c'est comme surfer, c'est-à-dire qu'il y a l'énergie, la puissance de la musique, et on est emporté par ça. L'idéal, pour moi, ça serait de donner cette musique à écouter au lecteur. En même temps, qu'il lise le livre... Oui, à fond. Mais déjà, rien de l'écouter là, ça m'a remis dans l'émotion.
On peut lire et écouter ça en même temps.
Ça serait l'idéal. Moi, j'aimerais créer une sorte de livre interactif, mais peut-être qu'on va y arriver avec les nouvelles technologies.
Vous qui voyez tout dans le futur.
Je prévois pas tout, mais j'essaie de trouver des voies pour améliorer l'interaction avec les livres. Et c'est sûr que cette énergie-là est très difficile à reproduire juste avec des mots, et que si on avait en plus la musique, et je vais ajouter un autre élément, si on avait en plus les odeurs. Moi, j'ai fait des études de parfumeur, et ce que je voulais faire, c'était des livres avec la musique et les odeurs, pour que les gens soient complètement immergés dans l'histoire, qu'ils oublient leur quotidien, qu'ils vivent avec mon personnage, qu'ils vivent l'histoire d'amour avec mon personnage, l'aventure et le mystère à fond.
Et ça, vous l'avez toujours fait, hein, depuis que vous écrivez, enfin depuis votre adolescence.
J'ai pas mis les parfums pour l'instant. J'essaie d'expliquer à mon éditeur, il faudrait mettre un petit truc, on gratte ou que, quelque chose. On est bloqué par les techniques.
Mais vous avez baigné dans la musique classique. Votre maman était pianiste.
Ma maman était pianiste et elle m'a très rapidement, à 6 ans, collé au piano, ce qui m'a dégoûté du piano et m'a tourné à fond vers la guitare.
C'est... Quand vous étiez dans le ventre de votre maman, vous écoutiez déjà Chopin et Debussy.
Oui, ça c'est une fois, j'ai fait une séance d'hypnose, je me suis retrouvé à revivre ces instants-là. Je me suis dit, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, je vais l'utiliser pour écrire des romans, c'est-à-dire une mémoire avant la naissance. J'adore toutes ces choses-là, toutes ces histoires, toutes ces sensations. De toute façon, pour moi, un bon livre est un livre qui va vous apporter une expérience physiologique. Mm-hmm. Vous allez sentir des choses dans votre corps, vous allez sentir les odeurs, vous allez vibrer avec le personnage, vous allez être avec le personnage. Et ça, c'est au-delà des mots, c'est des sensations à vivre. Voilà. Bernard, c'est un livre à vivre.
Bernard, le miroir de Cassandre. Bon, on a écouté un extrait du Requiem de Verdi. Est-ce que vous connaissez le Requiem de Raphaël Misrahi?
Lui aussi, c'est un homme à vivre.
Je m'attends au pire.
Tu me connais bien. Voilà, je vais vous apporter ça.
Attends.
Alors,
je vais vous apporter des petits cadeaux.
Bonsoir, Michel.
Alors, qu'est-ce que tu nous racontes de beau aujourd'hui?
Il m'a fait faire un t-shirt sur mesure.
C'est méfiez-vous, j'ai la grippe A.
Méfiez-vous, j'ai la grippe A, entre parenthèses, depuis un an.
Méfiez-vous, j'ai la grippe A depuis un an. C'est bien ça.
Donc, je vais mettre ça
pour faire du vélo samedi. Voilà. Je vais faire un tabac dans le peloton à Longchamp.
C'est drôle.
Et voilà, donc. Ah oui, je voulais juste rebondir sur un truc. Tu parlais d'un bouquin. Ce serait bien d'avoir un bouquin interactif. J'en ai vu un la semaine dernière. Il y a un lien internet au bout de 40 pages et pour que le lecteur puisse écouter une musique qui va avec le livre.
Enfin, on y va. Hein. Ouais. Mais l'important au-delà du livre, le livre, c'est quelque chose qui va vous transmettre une émotion. Si on peut transmettre une émotion enrichie, pourquoi s'en priver ? Il faut pas s'arrêter à l'objet livre. L'objet livre est un outil pour qu'on vit quelque chose à fond. Le cinéma est un outil. Tout ça ne sont que des moyens. La finalité, c'est que on vous ouvre l'esprit, qu'on fasse poser de nouvelles questions et vous viviez à fond une histoire.
D'accord, c'est bon. Non, c'était pas pour que tu rebondisses.
Non, mais je te dis ça comme ça.
C'est juste une affirmation de Raphaël.
Vous connaissez bien tous les deux?
On s'est croisés.
Mais attends, c'est la première personne que j'ai rencontrée. J'étais étudiant à l'IUT de Troyes. J'avais une vingtaine d'années. Et il était journaliste.
C'est Roland McDan qui nous a fait rencontrer.
Non, c'est moi qui t'ai présenté Roland McDan à l'époque.
Ah bon?
C'était journaliste au Nouvel Obs à l'époque?
Oui, j'étais journaliste scientifique et j'avais pas encore sorti de livre. J'avais déjà écrit Les Fourmis, mais j'arrivais pas à trouver un éditeur. J'ai mis 6 ans à trouver un éditeur.
Ouais, et après, comme il a écrit Les Fourmis, il y avait pas de préface. Moi, j'ai écrit un bouquin de préface et je l'ai appelé. Je lui ai dit, est-ce que tu veux bien que j'écrive la préface des fourmis, et il m'a dit oui, donc j'ai écrit la préface des fourmis.
Mais sinon, tu as travaillé un peu pour Bernard Werner?
Ah oui, bah bien sûr, parce que j'ai retrouvé ta petite fille.
Ah bah vas-y.
C'est on est en 2109, et puis elle en raconte des trucs. Hein.
J'écoute.
À part ça, t'as des nouvelles de Morissette?
Et bah justement, c'est Morissette Verber. C'est elle. Alors Morissette Verber, bonjour. Alors, vous êtes la petite fille de Bernard Werber.
Exactement. C'était un être... adorable, mais il passait son temps à écrire. Tout le temps. Et il écrivait des livres d'une épaisseur.
Oh là.
C'était incroyable.
Et le paradoxe, c'est qu'il avait quand même beaucoup d'amis.
Il était un peu étrange, d'ailleurs.
Ah oui, il était étrange. Il était comment? Racontez-moi. Je crois qu'il avait la particularité d'ouvrir le frigo 8 fois dans la nuit.
Oui, mais c'était pas pour manger.
Parce que c'est dans le frigo, c'est une lampe basse consommation. Donc, je crois que pour se diriger, pour aller directement de sa cuisine au couloir, il laissait le frigo ouvert.
Voilà, exactement, pour voir clair.
Il était bizarre. Hein,
il était très bizarre.
Très bizarre, en ce cas-là.
Et il écrivait ses gros livres. Plus ils étaient gros... et plus il était heureux.
Et, oui, pourtant...
et quand il avait une idée dans la tête, il ne l'avait pas au pied. Autrement, c'était un brave pépère.
C'est un brave pépère, Bernard Werber.
Oui, c'est un brave pépère.
Ouais, ouais. Et je crois que la particularité, c'est qu'il a voulu être enterré à côté de...
à côté d'Enrico Macias, parce que il l'aimait beaucoup.
Bon, bah, écoutez, Morissette, longue vie quand même. Hein. Je crois que vous êtes fiancé avec le petit-fils de Sylvie Vartan.
Voilà, exactement.
Ça se passe bien?
Oh, très très bien.
Ouais, ouais.
Ah oui,
je crois qu'il veut vous amener aux États-Unis là bientôt.
C'est pas sûr.
Pas sûr, ouais.
Non.
Ok.
On verra bien.
Bah alors, on vous embrasse, Morissette.
Moi, pareil, maman, mon petit lapin.
Voilà, bah appelez-moi comme ça, vous avez raison.
Bien voilà, on a fait avancer l'histoire de la radio.
Et on aura toujours la même voix en 2109.
Oui. Merci Raphaël de m'avoir permis d'entendre ma descendante. Je crois qu'il y a peu d'humains qui ont entendu leur... C'est mon arrière-petite-fille ou c'est ma petite-fille?
Petite-fille.
Ma petite-fille.
Ça vous fait plaisir, Bernard, maintenant je vous vois à la fin.
Alors, on va... Première fois que je parle à ma petite-fille, merci. Voilà.
Bernard, on va rester dans le domaine de l'humour. Hein. Il y a un coup de cœur humoristique. François Pérusse et ses 2 minutes du peuple.
Oui.
Vous aimez ça?
J'adore ça, j'ai découvert ça au Québec. C'est une émission quotidienne, il fait plein de voix et c'est un humour décalé qui m'amuse beaucoup. Et on va entendre.
Oui, écoutez.
T'as déjà vendu des abonnements par téléphone?
Non.
T'as déjà vendu quelque chose au téléphone?
Non.
Bon, t'as déjà téléphoné, oui?
J'ai essayé une fois, mais
quoi?
C'était occupé.
Et merde.
Mais je vais m'y faire.
Bon, ici, t'as une liste de numéros de téléphone.
D'accord.
Ce sont tous des gens qui sont pas abonnés à notre service de livraison du journal.
D'accord.
Tu comprends? Bon, tiens, t'as le premier numéro ici, tu le fais?
Oui.
Et là, on va te répondre et tu vas dire bonjour, je vous dérange pas trop.
Oui, oui.
C'est parfait.
D'accord.
Êtes-vous abonné au journal La Voix du Jour?
Ça va, je comprends.
Là, on va te dire non.
Mais ça va.
C'est pourquoi il nous ferait plaisir de vous l'expédier chaque jour.
Mais ça va, je comprends.
Allô?
Bonjour, je vous dérange pas trop?
Tu me déranges, ouais.
C'est parfait. Êtes-vous abonné au journal La Voix du Jour?
C'est de la merde, ce journal.
C'est pourquoi il nous ferait plaisir de vous l'expédier chaque jour. Ça marche pas, ton truc?
Mais parfois, il y a des durs à cuire, mais tu dois en essayer un autre.
Oui.
Et cette fois-ci, parle du concours, ça va les intéresser.
Le concours?
Mais parce que souvent, les gens qui veulent pas se faire livrer le journal, ils se débarrassent de toi en disant je le prends au kiosque.
D'accord.
Alors là, ton argument, c'est si tu t'abonnes, tu participes à un concours.
Je le prends au kiosque.
Oui, mais il y a un concours.
Qu'est-ce que c'est le concours?
Qu'est-ce que c'est le concours?
On peut gagner un voyage ou un dîner au restaurant Jules Verne.
On peut gagner un voyage à Euro Disney avec les restes de Jules Verne.
Crétin.
C'est un vrai concours, ça?
C'est un vrai concours?
Mais oui.
Mais oui.
Qui a déjà gagné?
Qui a déjà gagné?
Oh, des tas de gens.
Des tas de gens.
Dis un nom fictif, n'importe quoi.
Comme par exemple le monsieur Spock.
Ça va vite, hein?
Oh. Alors, il paraît que vous étiez tellement fan de ce programme court qui continue que vous avez voulu joindre l'auteur.
Oui, oui, comment vous savez ça? En effet, je l'ai contacté, on s'est retrouvés tous les deux très intimidés l'un par l'autre.
Monsieur François Pérusse.
Ouais, et on a discuté, je crois, 2 heures, 3 heures, comme ça. Il m'a parlé de comment il préparait ça. Et, je lui ai dit mon admiration parce que faire ça en quotidienne, en plus tous les personnages. Mais il fait des vrais petits films. C'est-à-dire, c'est pas les techniques de sketch habituelles, c'est-à-dire, il fait un film avec plein de personnages. Et des effets sonores, et c'est une technique assez intéressante. C'est pas aussi bien que Raphaël, mais c'est pas mal quand même.
Ah, merci, enfin, voilà ce que j'attendais.
Il y a beaucoup d'allusions au cinéma dans votre livre, Le miroir de Cassandre, aux acteurs aussi, hommage, ouais. Meryl Streep, Morgan Freeman. Ça pourrait être. Il y a un petit peu du Minority Report dans cet ouvrage-là. L'adaptation cinéma, ça, c'est probable?
Ah, moi j'ai une formation de scénariste, donc ça m'intéresse énormément de tout de suite penser en visuel cinématographique, même si ça devient jamais un film. Mais je me suis amusé à faire une chose, je me suis dit, plutôt que de décrire le personnage, je vais dire à quel acteur célèbre il ressemble. Comme ça, on gagne un temps fou. Et en même temps, les gens se disent, ah ouais, il ressemble à Morgan Freeman, donc je vois très bien quelle tête il a. Elle ressemble à Meryl Streep. Donc, en même temps, j'avais le casting idéal. J'avais les stars d'Hollywood qui étaient dans le roman. Et ça donnait une dimension cinématographique déjà avant que le projet puisse se faire. Mais, vous savez, l'objet livre est un objet rempli de puissance. De puissance en images, en émotions, en musique, en odeur, en souffle. Et on peut utiliser ça. On peut avoir tous les effets spéciaux qu'on veut. On peut avoir tout le montage qu'on veut. D'ailleurs, je fais du montage de scène comme on fait du montage cinéma. Et pour moi, il n'y a pas de différence réelle entre le cinéma et les livres. Ce qui est important, c'est la qualité de l'histoire. Et si l'histoire est bonne, les gens vont être emportés très vite dedans.
Merci beaucoup, cher Bernard Werber, Le miroir de Cassandre. Cher Albin Michel, merci à tous. Merci, Raphaël.
Merci
au cher Raphaël. Merci pour ce beau t-shirt.
Merci à Jean-Luc Carblat, Vanessa Zah, Nancy Correa, Jérôme Lacroix, Nicolas Souvent. Demain, nous allons accueillir Lara Fabian. Hein, son album « Toutes les femmes en moi » est un grand succès. Elle est en tournée. Et Daniel Russo pour la pièce de théâtre « Les autres ».
Est-ce que je peux rajouter une petite chose?
Je vous en prie, monsieur Werber.
J'ai créé un site internet qui s'appelle arbredespossibles.com. Tous les gens qui ont des idées de futur peuvent venir le déposer. C'est complètement aussi par bernardwerber.com. Et c'est une idée pour créer une sorte de banque de futur afin que tous les gens jouent au Cassandre, justement, et imaginent ce qu'il peut y avoir de bien dans le futur.
Parce que
je pense qu'il faut que c'est maintenant qu'on invente des solutions pour qu'elles puissent exister un jour.
Moi, j'ai une carte
à vendre. C'est virtuel pour vous, Michel.
Oui. J'ai de la pub à vendre. À demain.
Allez, bonsoir à tous.
Studio Europe 1.